territoire possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Ils instaurent une stratégie de communication, de manipulation.
Julien Leguet, l'un des co-porte-parole du collectif Bassine Non Merci.
On a vraiment en face de nous une alliance qui a des moyens quasi limités. Tout le monde de l'agro-industrie et les armes de l'État, qui décide d'emmener à Sainte-Soline trou du cul, des Deux-Sèvres, 9 hélicoptères, 2 blindés, des canons à eau, des munitions à hauteur de plusieurs milliers de bombes. Les bombes lacrymogènes, ça marche pas, alors on va leur envoyer des explosifs et des encerclantes qui font des trous dans les jambes, et que finalement, une bande de pignoufs puisse les mettre à mal comme ça, avec leur créativité. Comment on fait pour être aussi balèze en communication ? Qu'est-ce qu'on a comme arme, nous ? Pour résister aux vraies armes qu'ils ont en face, ben en effet, il y a le fait d'être présent dans les médias et de porter un autre récit que le récit des promoteurs et puis du gouvernement, quoi. S'ils mettent tout cet acharnement-là sur notre dos, d'une certaine manière, ils nous craignent, ils nous redoutent. On est tenaces dans nos convictions et déter, ouais.
Déterminé, créatif, joyeux, pacifique, le collectif Bassine Non Merci le reste. Malgré les répressions policières et judiciaires que subissent pas seulement les luttes écologistes, mais aussi les syndicalistes et tout mouvement social contestant l'oppression capitaliste. Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est la voix off.com et pour votre radio libre préférée. Bienvenue à vous pour cette nouvelle conversation avec Julien Leguet de BNM, Bassine Non Merci, où l'on va parler du programme du 25 mars 2026 et des commémorations de la féroce répression de Sainte-Soline II du 25 mars 2023. Où l'on va aussi évoquer cette nouvelle étape du calvaire judiciaire enduré par Julien, puisqu'en ce 4 mars 2026, nous nous retrouvons à nouveau au tribunal de Poitiers pour une énième audience de Jules. Alors je connais rien à la chose judiciaire, mais du haut de mon incompétence, ces 3 heures d'audience m'ont semblé lunaires, nourries d'accusations frisant parfois l'absurde, sans toujours de preuves pour les étayer. Graffiti au feutre Velleda ou à la craie, renversement de grilles de chantier, un tuyau cisaillé, et puis toujours cette confusion entretenue entre le rôle de porte-parole de BNM et celui de chef ou d'organisateur. Ce qu'a aussi relevé Maître Pierre Huriet du barreau de Nantes, l'avocat de Julien. Bonjour maître.
Bonjour.
Nous venons de passer 3 heures dans ce tribunal et il a été beaucoup question de Pellegrin et de stylo Velleda.
On était sur une audience un peu fourre-tout avec beaucoup de dossiers extrêmement divers mais qui ont tous comme point commun une forme d'acharnement par le parquet niortais de vouloir tout retenir contre Julien Leguet. Rien n'est passé.
J'ai oublié de mentionner aussi cette histoire de graffiti qui a été rapidement effacée. On a accusé Julien Leguet d'après une photo, vous disiez, de 5 cm sur 4.
Sur le tag, on lui reproche un tag à la bombe de craie, qui est un tag qui portait une accusation, plutôt une demande de justice pour les blessés de Sainte-Soline, qui m'apparaît tout à fait légitime dans une société démocratique. Et ça, ce tag-là est vécu comme quelque chose d'insupportable, tant par le parquet niortais que par le juge niortais qui a condamné en des termes extrêmement virulents les propos, considérant que c'était quelque chose d'absolument incroyable, intolérable que de mettre en cause l'État sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Bien évidemment, nous on demande, à supposer que ce soit Julien l'auteur, ce qui n'est pas prouvé au dossier vu la faible qualité des preuves, mais on demande que si c'est lui, de toute façon, on fasse primer la liberté d'expression.
Quelque chose qui apparaît dans cette audience comme dans des audiences précédentes, c'est la confusion entre le rôle de porte-parole d'une organisation, Julien Leguet est l'un des porte-parole de Bassine Non Merci. Confusion entre le rôle de porte-parole et d'organisateur.
Confusion qui est opérée par la cour d'appel et aussi par le tribunal de Poitiers sur le fait qu'être porte-parole devient de plus en plus le fait d'être organisateur d'eux. Et ça, c'est une pente qui est extrêmement glissante puisque ça revient à faire porter la responsabilité de tout ce qui se passe sur un rassemblement collectif sur celui ou celle qui prennent la parole pour porter des revendications. Et donc c'est une façon aussi de museler les militants et les militantes en faisant peser un risque pénal qui est complètement disproportionné. avec toujours la justice qui a beaucoup de mal sur les mouvements militants horizontaux. Culturellement, il leur faut un chef. Souvent un chef d'ailleurs, plus qu'une chef, c'est curieux. Et ils ont toujours du mal à entendre qu'en fait on est sur des mouvements avec quelque chose d'extrêmement horizontal quant à la prise de décision, quelque chose qui relève du consensus, qui relève du collectif, face à des organisations qui sont très verticales, où il y a forcément un, voire une chef qui décide, et ils calquent ce schéma-là sur les schémas militants, ce qui ne correspond pas.
Pour moi, c'est une journée de l'appel à grain cassé et du Velleda. Vous avez joué subtilement, mais sans trop enfoncer. C'était ironique, mais sans trop.
Eh bien, tant mieux, mais en fait, c'est toujours compliqué, parce qu'on est sur des enjeux qui sont lourds quand même pour Julien, notamment sur le plan des dommages et intérêts, mais avec, pour pas mal de sous-dossiers, des accusations qui tiennent assez mal, ce qui peut amener une forme d'ironie pour le faire constater par le juge. Donc c'est effectivement toujours délicat, faut pas donner l'impression de prendre ça à la légère, parce que c'est grave, mais on peut pas non plus prendre trop au sérieux certains dossiers qui nous sont présentés.
L'histoire lamentable qui fit un pétard du diable et le juge dit au coupable.
Qu'avez-vous à déclarer ?
Il se tue, mais aux assises, le président à barbe grise lui pose cette question précise.
Qu'avez-vous à déclarer ?
Une nuée de journalistes, les avocats qui l'assistent.
C'est affreux !
Tout le monde insiste.
Qu'avez-vous à déclarer ?
Il est rouge comme une tomate !
Il sent que sa tête éclate sous ce cri des bureaucrates.
Qu'avez-vous à déclarer ?
Qu'avez-vous à déclarer ?
Bonjour Julien.
Bonjour JBD.
Au sortir de cette énième audience, tu vas finir par prendre un appartement au tribunal, hein. 4 mars 2026, ça a duré 3 heures. Ouais. Rappelez une chose qu'on a d'ailleurs évoquée au précédent procès du 3 décembre 2025, dans Bassine Non Merci, dans BNM, qui se veut être un mouvement horizontal, il n'y a pas de chef. Tu peux bien nous reconfirmer à nouveau que tu n'es pas le chef de Bassine Non Merci, mais l'un de ses porte-paroles.
Je confirme que je ne suis pas le chef de Bassine Non Merci, que je suis juste un de ses co-porte-parole. C'est bien, monsieur JBD ?
Non, mais ça a quand même, une fois de plus, animé une grande partie de ces 3 heures de débat hier. Parmi tous les chefs d'accusation, il t'a encore été asséné par des gens qui apparemment donnent l'impression de ne pas comprendre que tu n'es pas l'organisateur de ces manifestations, mais que c'est ta tête parlante qui dépasse du groupe. Comme c'est ta tête qui dépasse, bah c'est ta tête qui prend. Tu as été accusé d'être l'organisateur. Là, il était beaucoup question de Sainte-Soline 1. Donc voilà, il a été martelé que Julien Le Guay est l'organisateur et donc le chef de Bassine Non Merci. Donc ça me semble important de le redire. Non, ce n'est pas le cas. Donc merci pour ta nouvelle confirmation.
Déjà, je reprécise que le jugement d'hier, il concernait pas l'organisation de Sainte-Soline 1. Ça, j'ai été condamné en appel avec un verdict le mois dernier. J'ai donc eu une condamnation à 3 mois avec sursis sur l'aspect de l'organisation de Sainte-Soline 1. Et je repasserai certainement, vraisemblablement le 11 mai avec d'autres camarades, notamment de la Conf et des Soulèvements de la Terre, sur l'organisation de Sainte-Soline 2, avec à nouveau des peines de prison avec sursis en première instance. Et hier, en fait, je comparaissais pour des aspects de dégradation et de participation à un groupement en vue de commettre des dégradations ou des violences. Voilà, c'est ça, le chef d'inculpation.
Pour clore sur apparemment cette incapacité à comprendre, ou alors c'est un choc culturel, les magistrats, la police, etc., qui fonctionnent de manière pyramidale avec un chef qui est tout en haut et des grouillots. Peut-être qu'ils ont du mal à comprendre que Bassine Non Merci essaye de ne pas fonctionner comme ça, que ça se veut être un mouvement horizontal et pas pyramidal.
Alors horizontal mais pas couché, hein, c'est pas nos collectifs, et que ce soit le collectif Bassine Non Merci ou le collectif des Soulèvements de la Terre, c'est des collectifs informels. Ce sont des associations de fait. À notre fonctionnement, on n'est pas apposé hein. Des statuts déposés en préfecture, c'est pas le cas. On n'a pas un statut d'assaut, et à ce titre-là, on n'a pas de responsable juridique identifié. Il n'y a pas de président, de secrétaire, de trésorier, etc. Et donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu par défaut qui nous tombe tous sur la tronche à bras raccourcis, parce que puisque justement, on fait état de notre horizontalité, d'être des mouvements où les choses se décident ensemble, où il n'y a pas d'hierarchie, et les têtes qui dépassent, comme tu l'as dit, c'est les gens qui prennent la parole au nom de leurs orgas, au nom du collectif. Et pour le coup, le point commun qu'on a avec les 8 des 9 camarades qui étions passés en procès à Niort, en 2023-2024, et qui aujourd'hui, tous les appels qu'on subit, c'est les suites de cette décision-là. Le point commun, c'est qu'on est tous porte-parole de nos orgas, que ce soit Benoît Feuillu pour les soulèvements de la terre ou Basile Duterte pour les soulèvements de la terre, c'est bien parce qu'ils apparaissent dans les médias et qu'ils prennent la parole au nom de leurs gars qui sont comparus. David Baudin, la CGT, Hervé Rouguin de Solidaire, les camarades de la Conf, Benoît Jonnet, Nicolas Giraud, idem. Pour le coup, c'est des orgas bien connus et identifiés. Oui, il y a une systématisation de venir taper les figures médiatiques des mouvements. Alors pourquoi ils font ça ? Parce que ça produit quelque chose. Parce que dans le récit qui est partagé ensuite dans les médias, etc., ça viendrait à criminaliser nos mouvements. Oui, on a eu de cesse devant les instances, notamment par la voix de nos avocats, mais pas que, tenter d'expliquer aux juges que notre fonctionnement n'était pas celui qu'ils connaissaient traditionnellement dans la société française, société pyramidale, une hiérarchie très établie, etc. Finalement, ils projettent dans nos manières d'agir leur ADN à eux et leur culture à eux, et pensent en effet, nous sommes les chefs puisqu'on prend la parole, et qu'à ce titre-là, on est les responsables de tout ce qui s'ensuit. Moi, j'ai mis pas mal d'énergie hier dans mes prises de parole pour justement expliquer le distinguo. Il y a un truc qui est factuel, concrètement, et c'est pas pour me dédouaner du tout. Sur toutes nos grosses manifs, tous les aspects de déploiement, les aspects un petit peu stratégiques et de comment se passe la manif en tant que telle, en fait, je suis pas associé à ces constructions-là. Par contre, il faut que j'en ai connaissance à un moment, puisque je vais participer et être de ceux qui vont transmettre aux camarades, aux citoyennes, aux manifestantes présents en quoi ça va consister. Et j'ai bien insisté auprès de la juge. J'ai regardé les yeux dans les yeux. Est-ce qu'elle va y apporter du crédit ? On verra, mais elle ne marche pas dans le truc puisqu'elle nous a condamnés en janvier. Que je rappelle, c'était pas l'objet du procès d'hier.
De toute façon, de la confusion, il y en a eu beaucoup hier dans ces 3 heures d'audience, surtout avec l'avocat de la partie adverse, Sébastien Rey, l'avocat de la COP de l'eau, que j'ai trouvé très mauvais.
Ça, c'est la stratégie, Sébastien Rey. Quand il y a des choses qui sont dites qui t'embêtent un petit peu, tu peux tousser.
Oui, j'ai trouvé que l'avocat de la partie adverse a beaucoup toussé pendant que tu parlais et pendant que ton avocat parlait aussi. Alors, cet homme avait certainement une portée de chaton dans la gorge. Sans vouloir de manquer de respect à la cour, je t'ai trouvé extrêmement respectueux vis-à-vis de l'institution, pas arrogant, mais t'as pas baissé ta culotte non plus. Respectueux, mais pas obséquieux. Tu as serré les dents avec beaucoup de classe. Il a été beaucoup question d'une pelle à grains cassée qui a été déplacé sur un site agro-industriel. Voilà, tu as trouvé une pelle à grains cassée le long d'une haie, pelle à grains qui n'était pas siglée, sur laquelle il n'y avait rien de marqué, qui a donc voyagé quelques centaines de mètres peut-être avant que tu la reposes. Donc tu n'as même pas volé cet objet, on t'a vu avec une pelle à grains cassée. Il a également été question d'une dégradation commise avec un feutre Velleda, des feutres pour tableau blanc qui s'effacent, c'est pas des marqueurs indélébiles. Sur un panneau de cette multinationale, tu as écrit un truc au feutre Velleda.
Il faut les citer, il faut pas les louper, parce que l'objet du tag, c'est que son message se diffuse. J'ai marqué sur ce panneau « Océalia, complice des bassines, signataire du protocole ». Pour ceux qui connaissent pas Océalia, c'est une très grosse coopérative qui couvre l'ensemble du Grand Ouest de la France, qui notamment, entre autres activités, est propriétaire de 83 magasins Gamme Vert. Ce que j'ai relevé hier, c'était un peu le truc de dire, mais quel est le but poursuivi par cette multinationale à mettre de l'énergie, à lancer une procédure avec un avocat, etc., pour des faits aussi ridicules, quand tu sais qu'à côté de ça, ils vont générer rien que sur la partie grande distribution Gamme Vert, 77 millions d'euros, quoi. On a pas mal rigolé avec Pierre, mon avocat, sur le fait de... Est-ce qu'on n'avait pas agi sur le ralentissement conséquent de l'activité d'Océalia à travers le dérobage de...
Si le CAC 40 a chuté, c'est de ta faute, quoi.
Il faudrait que rétroactivement, j'aille voir un petit peu comment s'est comporté le marché à ce moment-là, mais on trêve de plaisanterie factuellement. Puis c'est ce qui est un petit peu nouveau dans la manière dont je me suis défendu hier. J'ai vraiment pris le parti de dire, mais what the fuck, quoi.
Non, t'as pas dit ça, tu as été très respectueux.
C'est vrai. 3 des affaires pour lesquelles j'étais poursuivi hier, mais sont d'un niveau...
Tu es accusé à partir d'une photo 4 cm sur 5, où on aperçoit de dos un individu hirsute qui fait un tag avec une bombe à craie devant la gendarmerie de Niort, je crois, lors d'un 1er mai, lors d'une manifestation où il y avait des milliers de personnes. Tag à la craie qui a été effacé d'un coup de jet d'eau par les services techniques.
Dans ce que je voulais déclarer hier, c'est que c'est pire que ça. Ça a été retiré avec une espèce d'essence, un produit dégueulasse. Alors que c'était de la bombe à craie qui avait juste un coup de flotte à mettre, c'est qu'à 100 mètres de là en contrebas, t'as la Sève Niortaise, quoi.
tu n'as pas répondu à la question, êtes-vous l'auteur de ce graffiti ?
Je suis toujours pas en mesure de savoir si je suis bien l'auteur du tag du 1er mai 2023. Le mystère reste entier.
Il a été question d'une pelle à grains cassée de destruction massive, d'un feutre Velleda contondant et d'une bombe à Cray qu'on t'accuse d'avoir manipulé à partir d'une photo de 4 cm sur 5 d'un individu pris de dos et qui a aussi des cheveux.
Concrètement, la photo, on voit que la personne qui est un peu penchée, ben, il a ce superbe décolleté du plombier. Et je notais que même ma mère n'aurait pas été en mesure de dire si ce majestueux fessier appartenait à son fiston ou à un camarade de même corpulence. Et c'est ce que j'ai relevé également, quoi. On était 3000 en manif ce jour-là. C'était une manif en plein contexte de retraite 49-3, hyper tendue. Et puis on était à un mois et demi après Sainte-Soline.
2023, donc.
Et Serge était encore dans le coma à ce moment-là. Puis là, je vous précise, hein, là encore, le but de ces tags et de ces expressions, c'est qu'elles se soient diffusées, que leur message reste. Il était inscrit pour Serge et les 200 blessés de Sainte-Soline, Dubé, Vestieux, Darmanin en prison. Dubé, c'est la préfète de l'époque. Vestieux, c'est numéro 1 de la gendarmerie. Et puis Darmanin, on ne le présente plus. Et d'ailleurs, dans la déclaration, j'avais aussi prévu de préciser à la Cour que le 1er mai 2025, j'avais apposé un tag similaire à la craie, devant la même gendarmerie. Pour le coup, je l'assume pleinement. Même j'ai appelé les médias pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, pour que je puisse prouver que j'étais bien l'auteur de ce tag du 1er mai 2025. J'avais marqué « Dubé, Vestieux, Darmanin doivent être jugés ». La NR était allée interroger le successeur de Vestieux, le colonel Carmorvan. Carmorvan disait « Monsieur Leguet a compris la leçon. Cette fois-ci, il ne dit pas que les personnes doivent être emprisonnées, mais doivent être jugées ». Là, un colonel qui dit que Darmanin il doit être jugé, tu vois. Et il disait également, non, là il n'y a pas eu de dégradation puisque ça a été fait à la craie et qu'à ce titre-là, on n'envisage pas de poursuite. Eux, leur intention n'était pas de poursuivre pour ce tag-là. C'est à mourir de rire.
T'as le sens de l'humour, hein.
Ouais. C'est le genre de choses qui me régalent et qui, pour le coup, je trouve mettent assez bien en exergue comment finalement je me retrouve comme ça avec aujourd'hui plus de 6 procès, puis avec les appels qui vont derrière, des fois la cassation et tout. Moi je suis pas du tout à dire la justice corrompue, la justice au service d'eux et compagnie. La juge que j'ai eue hier en face de moi, la présidente du jury, ça semble être une magistrate qui a essayé de tenir une espèce de forme d'impartialité, même si à des moments il y a vraiment eu des trucs un peu borderline. Et Pierre Hurier aura le relevé, dire si la décision est faite, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein, mais en fait, c'est pas là que ça se joue. Le fait qu'aujourd'hui, il y a tout un tas d'affaires qui concernent les militants écolos, alors qu'en face de ça, et suite par exemple au mouvement agricole où il y a eu de multiples dégradations opérées par la CR avec...
Coordination rurale.
Ouais, la coordination rurale.
Le syndicat agricole proche du Front National.
C'est ça. Qu'ont, par exemple, Amel déversé plus de 70 tonnes de merde un peu partout dans la ville.
Sur un point de captation d'eau potable.
Notamment, qu'ont foutu en l'air le cairn commémoratif, le tas de pierres, l'œuvre d'art collective qu'on a construit en hommage aux blessés de Sainte-Soline et ils sont venus le défoncer.
Donc ça s'appelle une profanation, ça.
Et quand il y a des faits de ce type-là, puis même des faits beaucoup plus graves, comme l'agression dont Jean-Jacques Guillet avait fait l'objet de la part de syndicalistes de la CR, c'est un autre copain, co-porte-parole de BNM, qui s'est retrouvé comme ça, pendu au-dessus de la Nationale, chopé par 5 gars de la CR lors d'une nono-manif. Tout ça, c'est classé sans suite, tout ça, c'est pas instruit, tout ça, il n'y a pas de moyen d'investigation et pour cause. En fait, le bras armé de ces stratégies d'oppression des militants écolos, mais de tout militant, de tout contre-pouvoir en Macronie, c'est le procureur. C'est le procureur qui va recevoir les plaintes et qui va décider de est-ce qu'on y met du temps et de l'énergie, est-ce qu'on y met des moyens, est-ce qu'il y a des équipes qui se mobilisent pour aller établir des preuves. C'est là que ça se joue. Moi, je peux me retrouver devant une cour pour des trucs aussi insignifiants. Quelle énergie a dû être dépensé.
Alors la justice, les tuyaux sont bouchés, on lui donne très peu de moyens. Ça mobilisait aussi de la présence policière. Et je me disais, pour ces choses très graves qui t'étaient reprochées, l'argent du contribuable est quand même bien dépensé. Parce qu'il n'y a que ça à faire de courir après des gens qui font des graffitis avec des feutres Velleda. Et s'il s'agissait de la part du pouvoir, dont les magistrats sont ici un rouage, s'il s'agissait en fait d'une stratégie de harcèlement et d'épuisement, en fait, on va vous embêter pour des inscriptions aux feutres Velleda.
Velléda, et à chaque fois que vous allez lever un doigt ou une oreille, on va vous tomber dessus et on va vous fatiguer, on va vous épuiser.
Ça correspond à quelque chose de finalement assez systémique et à une stratégie bien établie et mise en place et appliquée. Qui c'est qui pilote ça? Qui c'est qui met en œuvre cette stratégie? C'est très clair, hein. Pour nous, c'est clairement le gouvernement et les différents ministres macronistes qui sont succédés au ministère de l'Intérieur et au ministère de l'Agriculture, principalement, main dans la main avec l'agro-industrie, l'agro-business, et puis Macron qui systématiquement donne le feu vert. Hein. C'est sûr que Macron aura été questionné sur le niveau de violence policière à appliquer à Sainte-Soline. Hein. Il n'a pas donné une carte blanche à Darmanin, et à un moment, avant d'appuyer sur le bouton, il a évidemment été mis dans la boucle, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, il va falloir le démontrer, il va falloir trouver les éléments qui le prouvent. Avant Sainte-Soline, et 3 jours en amont, il y avait une cellule de crise qui était en place, comme quand il y a une crise internationale où les ministres, les hauts gradés, etc., se retrouvent autour d'une carte, et bon, qu'est-ce qu'on fait et tout, quoi. C'était ça aussi Sainte-Soline, avant Sainte-Soline. Je me suis un petit peu égaré, mais sur l'aspect de la systématisation des poursuites. Il y a ce niveau national où on voit bien comment ça fonctionne. Et par exemple, je rappelle que Dupond-Moretti, quand il était garde des Sceaux, a fait paraître une circulaire à destination, d'ailleurs c'est pas le terme exact, mais des procureurs, pour les inviter à la plus grande sévérité vis-à-vis des militants écologistes et à mettre tous les moyens d'investigation nécessaires, humains et matériels, pour nous confondre. Et le procureur Van Bled, qui est un bon petit soldat, qui du coup a eu la promotion aujourd'hui en Bretagne, où il voulait aller, il a beaucoup plus de gens sous sa coupe, il a appliqué à la lettre et avec zèle cette directive de Dupond-Moretti. Et après, j'ai envie de regarder un petit peu à l'échelle internationale, notamment je pense à Greenpeace aux États-Unis aujourd'hui, qui se retrouve avec une menace d'une condamnation de plusieurs centaines de millions de dollars. C'est le processus qu'on appelle les procédures Bayon. C'est le fait de déposer plainte avec des risques encourus et des peines qui peuvent représenter des milliers, des centaines de millions même d'euros, quand c'est des grosses orgas comme ça aux États-Unis, ils sont là-dessus, dans l'espoir que la simple menace de dépôt de ces plaintes nous réduise au silence. Le plus gros enjeu, en fait, du verdict qui va tomber le 6 mai suite à ce jugement, c'est la COP de l'eau qui réclame à mon encontre la réparation à hauteur de 1 million d'euros pour la sécurisation des 4 bassines construites jusqu'alors. Si ça tombe, on va rigoler, le million. Et d'ailleurs, la COP de l'eau avait fait appel de la décision, quoique j'ai l'impression que le ministère public l'aura finalement fait pour lui. Eux, la décision en première instance, où finalement ils obtiendraient de ma part plus de 11 000 euros pour réparation des grilles qui sont tombées lors de la manif du 29 octobre 2022, la manif qu'on appelait rétroactivement Sainte-Soline 1. Je devrais régler 3 500 euros à la COP de l'eau pour le remboursement d'un tuyau qui a été cisaillé lors de l'action du 30 octobre qui a suivi la manif. Et puis 7 500 euros de réparation, dommages et intérêts et remboursement des frais de justice. Donc je devrais, ce qui est réclamé par la COP de l'eau, c'est 1 million. Pour la sécurisation des bassines, et autour de 20 000 euros, ce qui est assez ouf. Et là, j'en arrive peut-être même à la conclusion de dire, finalement, on s'aperçoit qu'en manif, et ça, c'est les notes des flics dégradés quand ils analysent le manif après coup, les bombes lacrymogènes, ça marche pas, alors on va leur envoyer des explosifs et des encerclantes qui font des trous dans les jambes, quoi. Puis on va les balancer à 200 mètres, puis là, on va peut-être réussir à aller... C'est un peu la même logique, quand on leur donne des tiges, des peines de sursis, etc., ils n'arrêtent pas leurs conneries, je dois les énerver, parce qu'en dépit de toutes les épées de Damoclès que j'ai sur la gueule, j'ai pas lâché mon rôle de porte-parole, et puis je le lâcherai pas, en vrai. Et puis je leur dis, si l'objet d'une peine, c'est de faire cesser les activités, et c'est de faire... Non, pour ma part, ça marchera pas. Et puis, qu'est-ce que ça génère ensuite dans l'opinion publique? Parce que finalement, Sébastien Rell, l'avocat de la COP de l'eau, il a réclamé à mon encontre des peines exemplaires, dans l'espoir que justement, ça jugule les envies de continuer à contester les bassines chez les autres. Je suis pas du tout sûr que si je me retrouvais à terme en prison ferme sur les affaires de bassines parce que mes sursis seraient tombés, je suis pas du tout sûr que la réaction des camarades, ce soit l'apaisement et ce soit... Non, je pense que c'est plutôt le contraire. De la même manière, quand eux rentrent dans le surarmement, les réponses qu'on apporte en face, c'est d'être plus fort dans le soin, plus fort d'être dans la solidarité, etc., mais de continuer à manifester coûte que coûte, il y a un peu le même mécanisme qui se met en branle sur l'aspect judiciaire. Oui.
Piège grossier tendu au mouvement écolo, essayer de faire basculer ces mouvements dans le seul truc qu'ils savent faire en face, c'est-à-dire la violence.
vous faire jouer au seul jeu qu'ils savent pratiquer.
Ouais. Je repense rétroactivement à la déclaration que j'ai faite, et puis en fait, ce qui est mon comportement en manif. La principale affaire qui était jugée, en tout cas moi, celle sur laquelle il y a le plus d'enjeux, et puis si ça devait tomber, ouais, clairement, faudra réfléchir à comment on y fait face collectivement, quoi. Si je me retrouve avec 20 000 balles à devoir payer à la COP de l'eau, je les ai pas, hein, et puis j'ai pas envie de les avoir non plus. J'ai pas envie ni que des sous de la lutte puissent venir combler le trou, le gouffre économique de la COP de l'eau, quoi. Une goutte d'eau dans un océan, hein, là, l'abysse est profond. L'écroulement économique de la COP de l'eau, c'est vraiment un sujet d'actualité. Un des trucs qui était un petit peu touchy hier dans ma manière de me défendre, c'est que notamment je décrivais mon comportement lors de la manif de Sainte-Soline 1, et où je faisais montre et je témoignais de ma non-agressivité et de ma non-violence, finalement. Moi, c'est mon ADN. C'est vrai que tu me verras jamais avec un caillou envoyer ça sur la tronche d'un flic, même s'il le mérite.
Je te soupçonne d'avoir beaucoup de défauts, mais alors je te vois comme un être foncièrement non-violent. Et d'ailleurs, dans vos rangs, et même, je n'ai jamais entendu parler d'AK-47, de dynamite, de choses comme ça. Ce n'est pas du tout ce que vous avez choisi.
Dans la déclaration que j'avais prévu de lire intégralement devant le tribunal, à une ou deux reprises, le terme de pacifique, le cortège blanc qui a cheminé jusqu'à la bassine à Sainte-Soline 1, était clairement dans des modalités d'action pacifiques. Il y avait notamment hier comme témoin Lisa Bellucco, qui est une députée verte de la circonscription de Poitiers, qui était dans ce cortège-là et qui avançait les mains en l'air, qui a été tapée par des forces de l'ordre, qui avait son écharpe, qu'elle était très identifiable ce jour-là, qu'en plus elle était enceinte. Le délire, quoi. Et hier, le Ray qui essayait de la titiller sur le fait de dire « Du coup, vous avez forcé ! Du coup, vous avez forcé !» J'avais les mains en l'air, j'avançais. Oui, donc
les mains en l'air et le ventre en avant.
C'est ça qui était casse-gueule, et y compris Lisa s'est pas mal fait travailler par la juge principale. Et... Est-ce que vous avez assisté à des violences, tu vois, ce truc tout le temps qu'on ne sait pas. Est-ce que vous condamnez les violences? Il y avait des black blocs.
Avez-vous vu des black blocs fabriquer des cocktails Molotov? Ce qui n'était pas l'objet des débats d'ailleurs. Enfin, c'était complètement hors sujet.
C'est ça. Il n'y a pas que le jugement des faits qui est en jeu. Il y a vraiment une dimension à la fois théâtrale et politique. Le RAID,
l'avocat de la partie adverse,
c'est ça. La COP de l'eau, la société anonyme de l'eau, hein, je pense qu'il faut plutôt les appeler comme ça. Théâtrale, et...
complètement hors sujet.
Bah plutôt, ouais. C'était même moi, j'ai cru qu'à un moment la juge allait le couper durant sa plaidoirie. Alors ça se fait pas.
Il me semble qu'elle lui a dit qu'il était hors sujet. Hein.
Mais elle l'a pas coupé. Elle l'a laissé finir son blabla.
J'ai quand même appris de la part de cet avocat un truc extraordinaire, c'est que Bastille, non merci, les soulèvements de la terre bénéficient d'une puissance de feu médiatique. Les médias dominants sont de votre côté et matraquent des messages éco-terroristes à longueur d'antenne et de télévision.
Je crois qu'il a même parlé d'un rouleau compresseur médiatique.
Pauvres agris irrigants qui passent pour des nazis écocidaires n'osent même plus parler de bassines à table parce que ça met le bazar au réveillon de Noël.
Mais c'est assez rigolo parce que c'est pas la première fois qu'on a ce retour-là, pour avoir parfois quelques retours de ce qui peut être évoqué dans les cellules de com autour de la préfecture qui discute avec la FNSE, la Chambre d'agriculture, etc. C'est un peu une constante. C'est vraiment un des trucs qui les questionne. C'est comment on fait pour être aussi balèze en communication. Alors c'est sûr qu'il y a des camarades qui mettent une énergie et qui ont un savoir-faire et qui font ça avec le cœur et un point où ils imaginent que justement on pourrait avoir un terrain de gauche derrière nous. Enfin, ça les dépasse. On parlait de la violence, mais en fait, qu'est-ce qu'on a comme arme, nous, pour résister aux vraies armes qu'ils ont en face? Ben, en effet, il y a le fait d'être présent dans les médias et de porter un autre récit que le récit des promoteurs et puis du gouvernement, quoi. Ils inversent les rôles, ils devenaient les petits poussets ou les David face à Goliath, alors que, putain, de quoi on parle, quoi, et qui ils sont. Et en effet, on a vraiment en face de nous une alliance qui est hyper balèze, qui a des moyens quasi illimités, quoi. Quand tu mets bout à bout tout le monde de l'agro-industrie et les armes de l'État, et que finalement une bande de pignouf puisse les mettre à mal comme ça, avec leur créativité, avec leur... ça les perturbe. En tout cas, s'ils mettent tout cet acharnement-là sur notre dos, moi je continue à en déduire que c'est parce qu'on appuie là où ça fait mal. Il témoigne du fait que, d'une certaine manière, il nous craint, il nous redoute. Il nous pense certainement être des adversaires coriaces. On est tenaces dans nos convictions et déter, ouais. Il y avait encore cet effet de retournement des vocabulaires et des paradigmes et des...
On est en plein 1984 aujourd'hui, hein. La vérité c'est le mensonge, la guerre c'est la paix, les méchants sont les gentils, l'extrême gauche est nazie et tu es un éco-terroriste parce que t'aimes bien les outardes canepetières.
Voilà. Qui c'est qui est très gentil ?
Les gentils !
Qui c'est qui est très méchant ?
Les méchants !
Qui a tous les premiers prix ?
Les gentils !
Qui roupille au dernier rang ?
Les méchants !
Qui fait des économies ?
Les gentils !
Et qui gaspille son argent ?
Les méchants !
Qui c'est qui vend des fusils ?
Les gentils !
Qui c'est qui se retrouve devant ?
Les méchants !
C'est comme un guignol spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Tout le monde en rigole et tout le monde y croit. Mais pourtant, pour qui t'as de l'antipathie ?
Les gentils.
Pour qui t'as un gros penchant ?
Les méchants.
C'est travail, famille, patrie.
Les gentils.
C'est la retraite à 20 ans,
les méchants.
Toujours avec Julien Leguet, l'un des co-porte-parole de Bassine Non Merci, après ce point sur son marathon judiciaire, on va parler des commémorations des 3 ans de la brutale répression policière de Sainte-Soline II du 25 mars 2023, sur laquelle la Ligue des droits de l'homme a rendu un rapport accablant pour le gouvernement.
Déjà.
Au moment où on se parle, là, on est au début du mois de mars, et oui. Au moment où cette émission sera diffusée, nous serons pas loin du 25 mars 2026, soit 3 ans après Sainte-Soline II, et il va y avoir 4 jours de festivités, de rencontres, de débats, de fêtes. C'est aussi l'une des grandes forces de ce mouvement, c'est de ne jamais perdre la joie d'être ensemble, de faire des choses ensemble, et finalement, plus il y a d'adversité, au lieu de vous diviser, plus ça vous renforce, en fait. Respirer ensemble la même lacrymo, ça crée des liens. Et est-ce qu'on peut évoquer rapidement le programme de ces 4 jours à Mel autour du 25 mars 2026
? En fait, il y a 2 initiatives. Il y a un appel national qui est diffusé depuis le 4 mars, notamment relayé par Reporter, qui est un appel à prise d'initiative un peu partout en France, pas qu'en France métropolitaine. Si on apprenait que des camarades d'outre-mer s'emparaient de l'appel, ça aurait beaucoup de sens pour nous. Qui est un appel à organiser des commémorations. Évidemment qu'il s'agit de marquer quelque chose de l'ordre du rituel et de l'anniversaire. Le 25 mars, c'est la date anniversaire de la manif de Sainte-Soline II, mais pas dans une démarche de victimisation. On vient poser notre petite bougie et puis on baisse. Non, c'est de dire haut et fort qu'on est là, que leur stratégie qui visait à nous massacrer, à nous réduire au silence, ben c'est tout l'inverse. Sur Mel, ce qu'on fait vivre depuis le premier anniversaire de Sainte-Soline, c'est d'organiser des méga-booms, d'aller devant la caserne de Mel, de sortir les enceintes, d'y aller en cortège familial et de pendant 2 heures faire un maximum de bruit, sans jaillir devant eux, leur rappeler aussi, les interpeller sur ce qui se passe. Et là, je pense que va y avoir des sacrées playlists. Et puis, je pense qu'ils vont pas échapper à réentendre les horreurs proférées par leurs collègues le jour de Sainte-Soline. On va leur diffuser haut et fort. Leur fils de pute, leur Nirvana, j'ai jamais... C'est pour ça que je suis rentré dedans.
Tu fais allusion aux propos insupportables tenus et qu'on a entendus via les caméras piétons des gendarmes de Sainte-Soline. Je te fais l'aveu que j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de temps, c'est insoutenable. Les propos haineux, les appels au meurtre, voilà, il est clairement dit, il faut les tuer, il faut les buter. Même chez des camarades à vous très déterres, très énervés contre la police, les forces de l'ordre, etc. Effectivement, j'entends des accabs qui fusent, mais je n'ai jamais entendu de propos aussi haineux, aussi méchants et aussi bêtes que ceux qu'on entend dans les caméras piétons des gendarmes. Je n'ai jamais entendu de vos camarades employer des mots aussi injurieux vis-à-vis des forces de l'ordre ou de qui que ce soit. Jamais je n'ai entendu d'appel au meurtre de policiers ou de dit, c'est pas parce que je vous aime bien, hein, mais je tiens à le dire en toute honnêteté intellectuelle, je n'ai jamais entendu ce genre de propos dans vos rangs.
C'est le récit d'Armanin, hein, qui expliquait avant Sainte-Soline II qu'il y avait des gens qui venaient pour tuer du flic. c'est honteux, c'est mensonger, c'est de la manipulation. Et malheureusement, dans cette bataille médiatique, ça se diffuse, ça se propage quand même, ces contre-vérités-là. Alors si on revient sur donc les méga-booms, donc il y a un appel national qui rejoint là par plus de 15 orgas. La première année, ça avait donné 80 rassemblements un peu partout en France. Je crois qu'en cumulé, c'était plus de 15 000 camarades qui s'étaient retrouvés devant des préfectures, des casernes, etc. L'an dernier, on l'a fait un peu plus en local. On a fait ça à Metz et à Poitiers. Et puis là, avec les images diffusées par Mediapart et le fait que la plainte des 4 camarades blessés à Sainte-Soline ait été classée sans suite, nous a motivés à dire il faut qu'on remarque le coup. Peut-être qu'à terme, cette journée du 25 mars elle pourrait devenir dans l'agenda militant une date autour des répressions policières, des violences policières. Parce que ce qui s'est passé à Sainte-Soline, en effet, c'est un peu historique. Et c'est historique aussi parce que ça a été pour toute une partie de la population française, on va dire plutôt middle class, blanche et écolo, le fait de ressentir dans ses chairs ce que pouvait être la violence policière. Peut-être un petit peu comme les gars de l'ACR ont pu, à certains endroits, mais vraiment ils ont été bichonnés quand même, ont pu, mais quand tu vois les images de l'évacuation de la ferme où il y a les vaches avec l'ACR et la conf, tu les vois exposés à ces violences policières. C'est bizarre parce que chez eux, ce que ça génère, chez les fachos de la CR, c'est plutôt « Ah, vous feriez mieux d'aller balancer les bombes chez les bougnoules en banlieue ». Peut-être ça la différence entre être de gauche et être de droite. Nous, quand on a vécu ça, on s'est dit « Mais qu'est-ce que ça doit être du coup dans les quartiers ? Qu'est-ce que ça doit être en Kanaki ?» Ce qui est aussi un peu historique dans le maintien de l'ordre à la française dans cet épisode de Sainte-Soline 2, c'est que c'est pour la première fois, la guerre de l'image, là, elle joue à plein. Pour la première fois, le dispositif de caméra piéton se généralise. Clairement, et c'est ce qu'on voit dans le deuxième docu qui est sorti de Mediapart, dans une logique de manipulation des images, il y a un dégradé qui explique « Bon, alors aujourd'hui, faut faire de l'image, il faut que vous captiez des choses qui tentent à démontrer que les violences viennent de l'adversaire ». C'est très clair, en fait, voilà, ils instaurent une stratégie de communication, de manipulation. La vérité, c'est que tous ces gaziers-là, ils ont pas eu la formation, ils savent pas quand est-ce que leur caméra, elle s'allume, elle s'allume pas, et finalement, il y a une procédure judiciaire. D'abord, c'est caché pendant un an et demi, il y a l'IGGN qui a ça dans les pattes et qui n'en fait rien, qui ne déclenche pas des signalements. Considérant que ça ne renseigne pas sur la plainte qui a été portée, sauf qu'il y a un devoir quand t'es fonctionnaire, c'est que quand t'as accès à des images qui montrent que d'autres fonctionnaires ne respectent pas la loi, t'es dans l'obligation de faire un signalement. Là concrètement, ils ont des centaines de faits, rien que balancer une injure comme ça sur un théâtre des opérations vis-à-vis de citoyennes et citoyens, en fait rien que ça c'est attaquable. Et avec ces images-là, c'est très facilement identifiable. En théorie, ils ont leur RIO.
C'est un matricule, numéro d'identification du fonctionnaire, et donc, du militaire.
Chaque caméra, elle est sourcée, on sait qui la porte, à quelle heure, c'est tout géolocalisé et tout. Donc c'est, s'il s'agissait de retrouver un par un tous ceux qui fautent dans leur fonction, et rien n'a été lancé. C'est bien parce que Mediapart et Libé ont révélé ces affaires qu'on peut espérer aujourd'hui qu'il y a quelques suites juridiques. Si on a du travail pour les années qui viennent, il va falloir ramer à contre-courant très fort, parce que clairement, derrière, le gouvernement va tout mettre en œuvre pour taire ça, quoi. Donc là, on est sur des batailles au long cours. Il a fallu 10 ans avant qu'il y ait une décision qui démontre que les forces de l'ordre étaient responsables de la mort de Rémi Fraisse. Et que c'est
ce jeune ornithologue qui a été assassiné d'une grenade tirée dans le dos.
Boutaniste que ornitho à Sivens, sur un projet également de réserve d'eau à destination de l'agro-industrie. Ouais.
Quand Rémi Fraisse a été assassiné par la police il y a maintenant une dizaine d'années, heureusement que l'Assemblée nationale a fait une minute de silence, comme elle l'a fait aussi en hommage à Serge et Mika qui ont fait des semaines de coma après Sainte-Soline.
Ben non, ils n'étaient pas assez d'extrême droite pour mériter un tel hommage, ouais.
Tu as ouvert cette porte qui va nous ramener à cette réunion d'information du 10 janvier 2026 qui a été organisée à Poitiers par Bassine Non-Merci, par les parents de Serge, qui est l'un des deux blessés. Et il a été dit quelque chose de très clair par le militant et père de Serge, par toi aussi. Tu disais, voilà, quand Darmanin a annoncé la veille de Sainte-Soline 2 que ça allait être extrêmement violent, tu expliquais qu'en fait qu'ils avaient Cresmalville en tête. À Cresmalville, lors d'une manifestation des années 77, un militant qui s'appelait Vidal Michalon a été assassiné par la police, et ça refroidit en fait le mouvement anti-nucléaire en France. C'est ce qu'ils ont probablement essayé de faire à Sainte-Soline 2. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit sur les caméras piétons des gendarmes qui sont très détendus, en fait, hein, quand ils sont en tir tendu, qu'on entend des gradés donner l'ordre de d'opérer des tirs interdits. Sous-entendu, bon, et si vous en tuez un ou deux, bah ça va les refroidir, les autres petits cons et petites connes. Ce qui est raté dorénavant, bah la répression, les meurtres, les blessures, ça ne concerne plus que les personnes des quartiers populaires, ça ne concerne plus que les gilets jaunes, ça ne concerne plus surtout que les personnes racisées. C'était émouvant cette minute de silence à l'Assemblée nationale pour Naël.
Et puis que le RN se lève, moi ça m'a surpris quand même, hein. Quelle belle preuve de...
Décidément, on est incorrigible, hein. Chasser le naturiste, il revient en bungalow, on peut pas s'empêcher de faire du sarcasme. C'est pour me détendre, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de dire est horrible. Ça, vous l'avez rappelé, ce qui s'est passé à Sainte-Soline 2, ce n'est pas un relâchement de la discipline, ce n'est pas quelques brebis galeuses qui se sont laissées aller à se faire plaisir, ce n'est pas une bavure, c'est volontaire. Cette violence policière, dans notre histoire de France, cette doctrine de la violence policière, vieille tradition française de nos dirigeants, qu'ils soient de droite ou de droite, 17 octobre 61, enfin 47-48, quand les GMR tirent à balles réelles sur les mineurs, ce sont des soi-disant socialistes qui sont au pouvoir à l'époque. Les premières mains arrachées et borgnement qui a eu lieu pendant la loi El Khomri, c'était sous Hollande, qui a accouché lui-même de Macron, enfin bon bref. Ce qui s'est passé à Sainte-Soline n'est pas une bavure, et dorénavant, la police ne persécute plus, ne tue plus, ne blesse plus que des personnes racisées ou des personnes issues des quartiers populaires. Désormais, la police, elle peut aussi tuer des blancs. Ou n'importe qui. Voilà. Et j'utilise le mot blanc dans ce mouvement. Je suis le fruit d'une société raciste. Ces questionnements-là qu'il y a dans vos mouvements BNM, soulèvements, etc., sur le fait qu'on est effectivement quand même très blanc, bah, ça va peut-être aussi accélérer cette réflexion. C'est que désormais, la répression, elle n'est plus que pour les personnes racisées, elle est pour tout le monde. Pourquoi pas, par exemple, les gens comme moi, petit bobo éduqué de centre-ville qui se pense de gauche, bah, moi aussi, en fait, ou d'autres, on peut se prendre une grenade dans la gueule, comme ça. Il était magnifique, mon tunnel.
Et si je reviens sur les événements de Sainte-Soline particulièrement, ce que ça fait apparaître, c'est que c'était pas une bavure. C'était pas le fait de quelques individus isolés. Les camarades intello diraient que c'est systémique. Mais c'est pas nouveau. Au contraire, c'est la continuité d'une longue tradition meurtrière de la police d'État, avec peut-être quelques nouveautés dues au champ des opérations. À Sainte-Soline, ils ont pu expérimenter tout un tas de dispositifs de maintien de l'ordre en milieu ouvert à la campagne. Les forces de l'ordre ont des méthodes et des outils qui sont très adaptés au centre-ville, de nassage, etc., des manœuvres où ils sont calés, etc. On a pu constater, à travers toutes les manifs qu'on a organisées depuis maintenant plus de 5 ans, depuis que les travaux ont démarré, leurs outillages, leurs méthodes étaient très inadaptées à des terrains comme Sainte-Soline, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'on a toujours joué des stratégies de dispersion et de profiter de l'immensité des paysages pour ne pas se retrouver confronté à leurs armes et pouvoir les contourner. Dans l'analyse des stratégies de maintien de l'ordre à la française, et il y a quand même des étapes, il y a des périodes, il y a des moments où il y a des doctrines qui sont mises en place et qui sont repensées, etc. Et on va dire que grosso modo, dans les années 80, début années 90, il y a un maintien de l'ordre à la française qui revient vers le truc des escalades, être au contact. On va dire que l'outil principal qui maîtrise et tout, c'est la matraque. Et qu'évidemment, se faire matraquer, ça fait pas du bien.
Tu pensais quelque chose d'ailleurs.
Ouais.
8 points de suture, me semble-t-il.
De Sainte-Soline 1. Et pour le coup, en plus, un des trucs qui les perturbe aussi, c'est que ça donne tout de suite des images très très violentes. Ben, on voit bien qui a les bâtons, qui la nouvelle doctrine de maintien de l'ordre appliquée maintenant en milieu rural comme en milieu urbain en France, dès qu'il y a des situations que les préfets jugent tendues, ça va être le maintien à distance. Ça veut dire quoi, maintenir l'adversaire à distance? C'est l'arroser de multiples bombes lacrymo et là, quand tu regardes les dernières commandes qu'il y a eu par Darmanin pour réalimenter les casernes et tout, mais c'est du délire, quoi. Les usines de fabrication de lacrymo, elles tournent à plein tube. Et c'est ça qui a été littéralement appliqué à Sainte-Soline, c'est-à-dire on ne laisse pas arriver à proximité. Donc on empêche en plus toute forme de désescalade possible, voire on crée l'inverse en tirant à distance alors que le cortège le plus proche de la bassine était à 1,5 km, en venant avec des quads et en arrosant des cortèges qui n'avaient manifesté d'aucune violence et qui n'avaient commis, en dehors du fait d'aller sur une manif interdite, n'avaient commis aucun méfait, aucun délit, aucune chose attaquable, et qui se prennent une pluie de lacrymo avec déjà, dès la première vague, des tirs tendus. Ça joue de la provocation, ça joue de la réaction. Évidemment que les camarades qui ont l'habitude de faire face aux forces de l'ordre, du coup, vont se déployer. Et bon, il y a rien à dire sur les Black Blocs, mais je redis, moi, il y a 5 ans, je connais pas les Black Blocs. J'ai bien vu des blocs se déployer à la télé ou sur certaines manifs, même très peu. Moi, j'étais pas dans les gros cortèges parisiens, etc. J'ai toujours été un rural. Et quand je vois les premiers camarades en noir arriver aux premières manifs de Bassine, j'ai peut-être celle de Cranchaban en tête, où on rentre dans la Bassine. Je capte bien que la mission que se donnent ces gens-là, c'est de faire de l'interposition, en fait. Je les ai toujours vus se mettre entre les forces de l'ordre quand elles commencent à tirer et les cortèges familiaux pour justement permettre à ce que la manif puisse continuer.
La manifaction de La Rochelle au port de la Palice en 2025, il m'a semblé que les Black Blocs sont intervenus à partir du moment où la police ou la gendarmerie ouvraient le feu.
D'autodéfense collective. C'est clairement ce que j'ai vu à l'œuvre. À chacune des manifs, il n'y a pas d'ambiguïté. Les violences, les provocations, elles viennent toujours des forces de l'ordre. Et ce qui met le feu aux poudres, et ce qui met aussi le niveau de violence et le niveau d'armement, c'est toujours la partie adverse qui décide d'emmener à Sainte-Soline Trou du cul, des Deux-Sèvres, 9 hélicoptères, 2 blindés, des canons à eau, des munitions à hauteur de plusieurs milliers de bombes. Quand tu vas sur un champ de bataille, tu le nommes théâtre des opérations avec tout ce matériel-là. C'est pas pour faire de la déco, quoi. On met en regard les saisies incroyables qu'ont pu opérer les forces de l'ordre au village de l'eau, où ils étalent sur des tables des boules de pétanque prélevées à des papis pétanqueurs, des meuleuses incroyables parce que ils ont aussi saisi le matos de tous les artisans du coin qui font regarder l'armement.
Des serviettes hygiéniques qui peuvent servir de masques PFP3 ou des pots de confiture à la mangue de destruction massive.
L'essentiel des armes utilisées par les camarades Black Bloc, en fait, c'est des armes de circonstances, c'est ce qu'ils trouvent sur le terrain.
Oui, une botte de terre, ça peut faire mal, sur un bouclier.
Enfin bon, je sais pas si c'est bien le sujet.
Non. Finalement, conclure aussi par ce moment de joie et de retrouvailles et de serrage de coudes à Mel aux alentours du 25 mars 2026. Parce que voilà, on a parlé de choses lugubres et très tristes, même si on a essayé de faire d'humour un peu déplacé. Mais peut-être ouvrir aussi sur ce truc qui me sidère toujours, que ce soit chez les soulèvements ou BNM, ou je sais pas quoi, cette capacité que vous avez à cultiver la joie d'être ensemble.
Oui. Et puis de se retrouver, et puis de continuer à faire corps et... Pour les 3 ans de Sainte-Soline, il y a un appel national et un appel à initiative. Si vous l'entendez puis que ça vous parle, vous pouvez aller voir sur le site des soulèvements ou Bassine non merci. On donne quelques orientations, quelques idées même. Faites bien comme ça vous parle, avec votre culture, avec ce que vous avez envie d'y mettre. Nous, on n'a pas de consigne à dire faites plutôt ça ou ça, chacun. Et par contre, ce qu'on trouve qui aurait du sens, c'est que ça soit, il y a vraiment une dimension nationale. Et que dans un village où il y a juste une petite gendarmerie, il y a 3 camarades qui se motivent à aller poser un verre au Bassaran avec une bougie dedans et d'aller leur dire on est là, on pense, on n'oublie pas, on pardonne pas. Et ben, on trouvera ça, nous, très satisfaisant. Ça nous fera du bien de le constater et de voir qu'en effet, il y a ce jour funeste de Sainte-Soline, passera pas aux oubliettes de l'histoire, quoi. Et puis ce sera pas non plus le récit des bourreaux qui restera et qui fera histoire. Et donc un peu aussi dans ce travail de trace et de comment on continue après ça et à prendre soin les uns des autres et à continuer à être offensif et avec l'objectif que les vrais bourreaux de Sainte-Soline un jour se retrouvent à ma place devant les tribunaux, qu'un Darmanin ait à répondre des arbitrages qu'il a pris, des prises de parole, des mensonges qu'il a proférés avant, pendant, après Sainte-Soline, puis toute la chaîne de commandement qui va avec, les préfets complices Dubé, je ne sais pas quelle place précisément elle a autour de la table quand ils font leur gros brainstorming avec les cartes de Sainte-Soline devant eux, ils jouent à risque, quoi, à toucher couler, enfin c'est des fous. Il y a cet enjeu de mémoire le 25 mars, et puis sur Mel, on organise 4 jours de festivités diverses et variées. Je ne sais jamais comment trop les appeler, on parle de commémoration. À Mel aussi, il y aura une méga boom, ça nous kiffe vraiment cette forme-là. Ça nous régale, ça nous fait du bien quand on fait les méga booms. Quand on va à Mel, on se retrouve face aux gendarmes auxquels on a affaire au quotidien, qu'ont leurs enfants dans les mêmes écoles, qu'on est susceptible de croiser à Super U, et c'est bien venir leur dire, on est là, on vit à côté de vous, on vient se réhumaniser et aussi peut-être de leur rendre aussi une petite part d'humanité, quoi. En venant là où ils vivent, avec leur famille, etc. Vraiment, à chaque fois, on précise bien, on n'est pas du tout là pour mettre la pression sur les familles. Même un truc un peu rigolo, je me demande si aujourd'hui, c'est pas une des dates les plus attendues par les gamins des flics, quoi. Ils reviennent pas, les messieurs qui font des feux d'artifice et qui font de la musique. Je digresse encore, mais voilà, c'est pour donner un peu le sens profond qu'on peut mettre sur ces moments-là. Peut-être, ouais, je sais pas, j'allais parler de concorde et de réconciliation. Alors,
pour un épouvantable éco-terroriste armé de Velléda contondant, vous me confondez un petit peu parce que vous êtes en train quand même d'en appeler à la notion de justice. Dans votre propos, il me semble discerner que vous croyez quand même à quelques grandes valeurs comme la liberté, l'égalité, la fraternité, la delphité. Bah pour un éco-terroriste, c'est quand même pas mal en fait. Vous semblez encore croire à certaines valeurs, allez je vais dire un gros mot pour certains et certaines, républicaines.
J'ai presque envie d'utiliser humanisme, mais aujourd'hui il est
non,
tellement...
Non, c'est mais plus oui. possible ça, on se déconstruit, ça. On est ethnocentré.
Voilà, c'est ça. Bah, du coup on revient sur le programme, sur ce qui va se passer à Mel. Pas d'ambiguïté, on n'est pas en train de refaire le village de l'eau, on n'est pas en train de créer les conditions pour pouvoir vous accueillir par milliers. On est en train de créer un événement qui va pouvoir accueillir entre 300 et 500 personnes au plus fort le samedi où c'est la grosse journée. Si c'est ouvert à tous, c'est pas un événement public large où on va chercher à faire absolument masse. Plutôt essayer de faire en sorte que les gens qui pensent avoir besoin de se retrouver à ce moment-là et qu'ont vécu ou pas Sainte-Soline dans leur chair, que ça a brassé et tout, il y a quand même quelque chose, je trouve, de l'idée du cocon, quelque chose qu'on va essayer de soigner. Ça se met en œuvre par le fait qu'après, on va vraiment faire la part belle à la culture, dans le mouvement. On s'aperçoit que depuis plusieurs années, et on en discutait hier soir, je t'ai montré tout un tas d'ouvrages, etc. Comment on fait culture, comment on fait trace, comment la créativité, c'est peut-être une de nos principales forces. Alors, si je déroule le programme, donc le mercredi, c'est 25, c'est Mégaboom. Ici et ailleurs, le 26, il y a Benoît de Lépine,
grand cinéaste grolandais,
Michael Kull pour les fans, qui a sorti un nouveau film,
Animal Totem, très belle fable.
J'ai appris la sortie du film le jour où il est sorti, le 10 décembre, qui est mon anniversaire. Le film, c'est un homme d'affaires plus ou moins qui perd ses papiers, son argent, à l'aéroport de Beauvais. Où je suis né en 1976, je suis né à Beauvais.
Tu racontes le film, c'est pas bien. Non, c'est un très beau film, c'est une très belle fable, c'est poétique et c'est merveilleusement bien filmé. Il faut voir ce film. Ça s'appelle Animal Totem et on pourra le voir à Mel.
En présence de Benoît, qui habite pas si loin que ça d'ici, en présence de son fils aussi. Et moi, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que des copains m'ont dit que Benoît, quand il parlait de son film, il faisait assez souvent allusion aux luttes écolo, au soulèvement, et il se trouve que le fiston de Benoît, il était à Sainte-Soline 2, et il sera là aussi. Ouais, ça va être un moment chouette et fort, quoi. Là, moi, où ça résonne pleinement sur ce terme d'animal totem, et c'est tellement nos luttes, ça a été très vite quand j'ai vu la sortie tic-tic. Le lendemain, j'avais un mail de Benoît, et banco, je viens. Et... un chouette moment. Le lendemain, le vendredi, Café du Boulevard, le super café mélois où il y a tout un tas de concerts, d'assos qui organisent des choses, etc. Qui a toujours été accueillant quand BNM voulait faire des projections débats, des expos, etc. Et ben donc là, c'est Antoine, ciao. C'est un journaliste incroyable qui a bossé avec Mermet et des reportages de lutte pendant des années et des années. Et donc, il ressort la trompette avec Cécile Jarzillon, qui viennent faire un spectacle qui s'appelle « Au début, il y avait Guernica » ou « Au commencement ». C'est sur la montée du fascisme en Espagne. Il vient, je pense, aussi chercher dans ses racines familiales, etc., à mettre en perspective tout ça. Antoine et Cécile, devant le public, préparent une paella tout en faisant leur tambouille radiophonique et de l'impro. Puis après, on mange la paella ensemble et vraisemblablement qu'après, il y aura une vente aux enchères foutraque organisée par des copains de Mel. Et le samedi, c'est la grosse journée. Toute la journée, il va y avoir des tables rondes et des ateliers sur les deux grands thèmes que sont, je dirais l'anti-rep, mais c'est tellement réducteur, mais justement comment on fait face, comment on construit stratégie par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qu'on a vécu et les suites qu'on voudra y donner, quoi. Donc avec la LDH qui va venir,
la Ligue des droits de l'homme,
le collectif qui accompagne les quatre camarades blessés graves de Sainte-Soline. Collectif Guerre à la Guerre qui va être présent, etc. Voilà, sur comment on reste debout face à ça et comment on continue de s'organiser et d'être fort ensemble. Et puis également sur l'eau, table ronde sur l'eau, avec vraiment aujourd'hui à la fois le constat Bah, la lutte, elle a quand même porté ses fruits en partie, puisque là, concrètement, aujourd'hui, on parle clairement d'un moratoire de fait. Concrètement, ça fait plus de 2 ans qu'il n'y a pas le moindre travaux de méga bassines qui sont développés ni dans le Poitou ni ailleurs en France. Par contre, avec le gros coup de pression qui a été mis par la CR et la FNSEA ces derniers temps, bah, dans les grandes promesses qui sont en train de sortir là, du gouvernement et le projet de loi d'urgence agricole qui doit sortir dans le mois, la part belle aux méga bassines est faite et vraiment on est dans une logique de lever tous les interdits, toutes les difficultés et tout le cadre réglementaire en fait qui rendait beaucoup de bassines illégales incontournables, quoi. Grosso modo autour du concept de dire on considère les bassines d'intérêt général majeur. À ce titre-là, elles peuvent obtenir dérogation pour, par exemple, sur le cas de l'Outarde-Canepetière qui bloque la bassine de Sainte-Soline, ben, si la loi d'urgence agricole venait à être appliquée, on pourrait considérer qu'en fait, on se torche les Outarde-Canepetière et qu'on peut bien faire, puisque c'est d'intérêt majeur, faire des méga bassines à tire-larigot en respectant rien, quoi. Et il y aura des ateliers, je crois que la LDH là, est en train d'établir la présentation de leur travail d'observatrice des violences policières lors des cortèges. En quoi ça consiste, puis pourquoi pas pour que des gens puissent rejoindre et renforcer. Dans notre démocratie piétinée, ces gens-là jouent un rôle majeur, un contre-pouvoir essentiel, et on le voit bien. Quand c'est la police qui contrôle la police, quand c'est la gendarmerie qui contrôle la gendarmerie, IGPN, IGGN, mais c'est une arnaque sans nom. Évidemment que ça ne peut que dysfonctionner. C'est hyper précieux quand il y a des observateurs avec des protocoles, avec une méthode, avec une reconnaissance internationale, qui viennent produire des rapports sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Ben oui, quand je parlais tout à l'heure de l'enjeu de la vérité, de ce qui fait trace, etc., cet organisme a un rôle fondamental. Quand on a un Darmanin qui attaque bille en tête la LDH après Sainte-Soline en venant questionner les collectivités que quand même peut-être qu'ils donnent des sous à la LDH et qu'à ce titre-là, est-ce qu'il, tu vois un petit peu le niveau. Et donc je disais qu'on ferait la part belle à la culture et en fait dans ces moments qui vont être un peu lourds, eh ben il y a des respirations. Le midi, on va rejoindre le Cairn qui a été une nouvelle fois démonté par la CR et on va le remonter pour la troisième fois.
Démonté, saccagé quoi, enfin profané.
Oui, un gros coup de pelleteuse.
Et passé devant hier soir, bon il y a encore un tas de cailloux.
Ouais, c'est ça. Il n'y a plus qu'à le réériger. C'est un peu notre mythe de Sisyphe. Là, il y aura vraisemblablement l'interchorale qui va nous enjailler. Enfin voilà, on va être, je l'espère, avec cette météo-là, pique-niquer joyeusement en mode chantier tous ensemble. Et à 14h, on retourne aux tables rondes. Donc l'après-midi, ce sera sur l'anti-rep. Et comme on imagine que celle-ci risque d'être très chargée émotionnellement, on prévoit un atterrissage en douceur. Il y a un camarade qui a fait une chorégraphie de 25 minutes sur Sainte-Soline. Ça a l'air très beau. Et à 17h, spectacle d'une compagnie nantaise, compagnie du Gigaphone, qui a également fait une création autour de Sainte-Soline et de ses questions d'eau. Donc c'est un spectacle d'une heure et quart. On retournera au Cairn pour faire un rituel final, avec un truc, je spoil, des torches antifa, et on en reparlera. Et puis les cantines de lutte qui vont nous régaler. Et puis à 21h, on retourne dans la grande salle. Il y a un autre spectacle d'Antoine et Cécile, Le silence des pantoufles, sur la montée de l'extrême droite. Qu'on finisse dans la joie, la douceur et la rigolade. Ces 4 jours de manifestation et de célébration.
Tout détail à retrouver sur le site de Bassines Non Merci. Ouais. 4 jours de joie, de chaleur et c'est de réflexion.
C'est ça.
Quand on conclut un propos, je trouve qu'un no basaran en général est approprié. Hein.
Hyper spontané quoi, là, pour oui, l'occasion. Oui, je sais voilà. Pas, bah, no basaran alors.
Merci Julia.
Et voilà les amis, c'est sur ce rendez-vous que prend fin cette conversation avec Julien Leguet, co-porte-parole de Bassines Non Merci. Émission à télécharger via notre site polymixetlavoixoff.com avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio encore libre préférée. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.